BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Notre moisson hebdomadaire d'études et de chiffres. N'oubliez pas non plus nos réseaux sociaux, la librairie de l'écho sur Instagram, X, LinkedIn, YouTube, Facebook. Vous trouverez la référence de tous les livres dont on parle dans l'émission. Et tout de suite, place aux auteurs. L'alimentation au menu de cette librairie de l'écho, des besoins les plus élémentaires aux plaisirs les plus coupables. Nous allons explorer tous ces déséquilibres quantitatifs. Pourquoi autant d'humains souffrent encore de faim et de malnutrition? Et puis, déséquilibres qualitatifs aussi. Pourquoi autant de malbouffe et d'atteinte à l'environnement dans les méthodes de culture, y compris pour des produits stars comme le chocolat? Réponse avec nos deux invités. Stéphane Layani, bonjour.
Bonjour,
Stéphane,
bonjour Emmanuel.
Vous êtes le patron de Rungis, le président de l'Union mondiale des marchés de gros et vous publiez Le Monde à faim au Cherche Midi. Catherine Khodorowski, bonjour.
Bonjour.
Catherine, vous êtes historienne et sociologue de l'alimentation. Vous avez longtemps présidé l'Académie française du chocolat et vous publiez Quel chocolat pour demain chez Duno. On commence avec vous, Stéphane Layani. La faim, on a l'impression qu'on a beau être de plus en plus riche, dans un monde de plus en plus riche, il y a toujours des gens qui ont faim et des pays qui ont faim. Est-ce que c'est parce qu'on ne produit pas assez?
C'est la conjonction de plusieurs phénomènes, mais évidemment, le premier problème, c'est que on pourrait manger à sa faim dans le monde entier, on produit assez, et malheureusement, les chaînes logistiques ne sont pas du tout
d'accord,
adaptées.
Donc c'est pas un problème de production.
Il y a
assez de production pour nourrir tout le monde.
Pas seulement. On pourrait produire mieux, mais on produit suffisamment pour nourrir la planète.
Alors, qu'est-ce qui dysfonctionne? Est-ce que y a des famines pour des raisons politiques? Est-ce que c'est des raisons économiques? Est-ce que c'est des raisons logistiques? Pourquoi, si on produit assez, il y a encore des gens qui ont faim
d'abord,
dans ce monde?
Il faut parler d'abord de l'insécurité alimentaire, plus que de la famine. Parce que les famines sont extrêmement ciblées, courtes et souvent liées à des faits de guerre. En revanche, la capacité à ne pas se nourrir tous les jours à sa faim, c'est quelque chose qui touche plus de 700 millions de personnes. Et donc, ce que je constate, c'est que on a une conjonction de phénomènes qui sont extrêmement difficiles. D'une part, bien sûr, il y a des pays dont la production est inadaptée à l'alimentation de leur propre population. Il y a des tensions géopolitiques, on le voit en ce moment, qui peuvent créer des famines ou des difficultés. Et évidemment, dans la guerre, blesser et donner la faim sont des objectifs en tant que tels, ou ce sont des conséquences des tensions géopolitiques. Et puis, on s'est ingénié dans nos pays occidentaux à créer les conditions pour rendre la production plus difficile et donc rendre les produits plus coûteux, plus difficile d'accès et, d'une certaine manière, créer de l'insécurité alimentaire. Rendez-vous compte, dans les pays occidentaux, plus d'une personne sur 11 souffre de la faim au moins une fois dans l'année. C'est énorme, une personne sur 11. Et donc, moi, mon bouquin, c'est un bouquin à la fois d'expérience et aussi de sachant, puisque, vous l'avez dit, je suis président de l'Union mondiale des marchés, et un des faits qui me rend fou, c'est quand je vois dans des pays en développement les productions qui restent dans les champs.
Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur des pertes? J'ose pas dire gaspillage, mais des pertes.
Ce sont des pertes alimentaires qui sont liées au fait qu'on n'a pas de transport, pas d'entrepôt logistique, pas de marché de gros, parce qu'on distribue mal, on le sait. Ça va jusqu'à 30%. Les chiffres de la FAO sont plus limités. Ils disent 14%, mais ça peut aller dans certains pays jusqu'à 30%. Et dans le livre, je raconte que j'ai constaté aux quatre coins du globe. Alors évidemment, le continent le plus affecté, c'est l'Asie. C'est aussi l'Afrique, c'est d'abord l'Asie. Et en Asie, eh bien, on a des situations comme ça parce que ça n'est pas organisé. C'est une raison pour laquelle, je dis, on oublie toujours le maillon logistique qui est le maillon, finalement, qui permet de sortir les céréales, les viandes, les produits frais des champs et les amener dans les villes. Et d'ailleurs, l'organisation même des pays aujourd'hui, avec une concentration urbaine très forte, alors qu'autrefois on avait une agriculture vivrière avec des gens qui vivaient proches de la production, a changé les conditions dans lesquelles on se nourrit.
Vous parlez d'arsenalisation de l'alimentation. De l'alimentation comme d'une arme politique.
C'est sûr. C'est sûr. La guerre en Ukraine en est un très bon exemple. L'Ukraine est le grenier à blé, à soja, de l'ensemble du monde occidental. Et clairement, avec sa guerre, les Russes, bien, ils attaquent ses capacités. Et ça leur a permis de vendre mieux leurs produits, leurs céréales, d'avoir de nouveaux clients, par exemple au Proche-Orient ou dans les pays du Golfe Persique. Et clairement, c'est malheureusement un des objectifs de la guerre violente. Je ne parle pas de la guerre économique, c'est d'affamer les populations. Ça a toujours été le cas. L'exemple des Prussiens qui affament Paris et on est obligé de manger jusqu'au dernier animal du jardin d'acclimatation à Paris montre que ça a toujours été le cas dans la guerre, malheureusement.
La question, dans cet environnement tendu, vous le dites, Donald Trump, il bouleverse les grands équilibres agricoles du monde. On a redécouvert, finalement, depuis quelques années, la notion de souveraineté alimentaire. Et on voit une France qui est un des pays agricoles les plus compétitifs du monde perdre sa souveraineté alimentaire. Comment vous expliquez ça ? Et est-ce que c'est grave ?
Je pense que d'abord la souveraineté, ce n'est pas le chauvinisme alimentaire. C'est ne pas dépendre. C'est ça la souveraineté. Et ne pas dépendre, ça peut être aussi se fournir. On se fournit en chocolat, en café, en produits du monde entier, toujours. Et évidemment, quand une production arrive, une récolte arrive, il faut aussi être capable de l'exporter. Sinon, on la perd. Mais la résilience alimentaire, c'est cette capacité à être capable de se nourrir soi-même dans des conditions faciles quand on a des difficultés, des conflits, des tensions sur des intrants, des engrais, etc. Et donc, ce qui me frappe, c'est que malheureusement, pour la France, on s'est mis en situation où on a des semelles de plomb. Je m'explique. On s'est créé des contraintes très fortes en matière écologique et également en matière économique qui font que la production n'est pas facile. Les métiers agricoles sont de moins en moins attractifs parce que c'est très dur et 50% de la population de production agricole va partir à la retraite dans les 10 années qui viennent. C'est un sujet. Et donc, en fait, quand on regarde l'agriculture qui se mange, pas uniquement les grandes commodités agricoles, j'ai beaucoup de respect pour les grandes commodités agricoles, le sucre, le blé, etc. Mais l'agriculture qui se mange, eh bien, malheureusement, pour des raisons de main-d'œuvre, des raisons de difficultés avec un certain nombre de pesticides qui sont totalement légitimes, on produit moins et on produit de moins en moins de produits qui se mangent. Alors je donne l'exemple toujours de la cerise. Les Français se raffolent de cerises. Les cerises que nous ne produisons pas, on les importe, forcément. Et ça crée un problème de souveraineté alimentaire.
Ce serait, alors, si on parle de modèle agricole français, mais plutôt de modèle alimentaire français, c'est-à-dire tout ce qui va de comme on a coutume de dire maintenant, de la fourche à la fourchette. Ce serait quoi la bonne organisation du modèle français? Est-ce que ce serait aller, on voit qu'il y a une aspiration, un fantasme peut-être, à l'agriculture de proximité, est-ce que c'est la solution? Est-ce que le bio, c'est la solution? Est-ce que la spécialisation sur le haut de gamme, c'est la solution? Est-ce qu'on n'a pas fait l'erreur d'abandonner un milieu de gamme compétitif à la française? Ce serait quoi le bon modèle?
Alors, moi, je pense que d'abord, dans ce domaine, il y a beaucoup de totems et beaucoup de tabous. Et donc, les gens se racontent des histoires, alors que finalement, en économie, c'est assez simple. Il y a deux règles. Il faut produire sur son sol, et produire forcément plus, parce que la population en a besoin et le demande. Et d'autre part, et en tout cas, si on veut pas avoir notre balance commerciale qui dévisse, il faut produire plus. Et la deuxième règle fondamentale, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et donc, il faut essayer de s'adapter à l'offre et essayer de s'adapter à la demande. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on produit des produits qu'attendent les consommateurs? Qu'est-ce qu'on fait en matière de marketing pour vendre nos produits? Quand est-ce qu'on les distribue? Quand est-ce qu'on les vend et on les produit? Si la tomate française arrive, par exemple, à Paris, quand les gens partent en vacances dans le sud, on a un problème. Et donc, clairement, je pense que les marchés de gros, et c'est la deuxième partie de mon bouquin, c'est la solution. Parce que quoi de mieux que le marché pour s'adapter, fixer des prix justes, rémunérer l'agriculteur, avoir un thermomètre par rapport à ce qu'est la demande? Tous les jours, c'est l'offre et la demande.
Le marché de gros, c'est tel que fonctionne Rungis, c'est-à-dire cette énorme place de marché en fait entre les producteurs de la France entière et, pour le coup, les consommateurs. Alors, on va dire de toute l'Île-de-France. C'est un modèle qui a été inventé par les Français. C'est un modèle qui est plus universel. Surtout, c'est le modèle qui se répand partout.
D'abord, Rungis, on nourrit 20 millions de personnes tous les jours qui pleuvent, qui ventent. Donc ça, c'est un modèle robuste. Ça marche bien. Et on a passé toutes les crises. On a passé la crise du Covid, on a passé la crise de l'Ukraine. On est en train de travailler la crise nouvelle que nous connaissons au Proche-Orient, avec les prix de l'essence, les prix du gazole qui augmentent. Et donc, je pense que c'est un modèle assez universel, puisque en Europe, il y a des marchés à Londres, en Grande-Bretagne, il y en a plusieurs. C'est la City qui les gère, d'ailleurs, pour la petite histoire. Il y a des marchés dans toute la Hanse, de Rotterdam en passant par Hambourg. Et puis, il y a des marchés, évidemment, dans l'Europe du Sud, en Italie, en Espagne. Et on a des marchés moins nombreux sur les autres continents. Ce qui fait que je popularise ce modèle, je l'exporte, et ça marche bien. Et ça permet, demain, de créer des hubs qui vont permettre, justement, cette circulation de la nourriture, cette lutte contre le gaspillage alimentaire et cette répartition, si évidemment les frontières sont ouvertes. Parce que quand Donald Trump augmente les tarifs, c'est sûr que ça crée des hystérésis, des difficultés dans l'approvisionnement d'un certain nombre de produits. Et donc, je pense que c'est vraiment, à terme, le modèle qui marche. Et quel est le contre-modèle? Le contre-modèle, ce sont ces super centrales qui se sont installées au Benelux et qui fait que maintenant, la balance des paiements, la balance commerciale que nous avons avec les Pays-Bas est déficitaire. C'est quand même bizarre.
Ah ouais.
Voilà, c'est bizarre. Les Pays-Bas sont plus forts que nous. Ce serait plus fort que nous en production. Non. On va exporter dans des super centrales aux Pays-Bas et en Belgique ou au Luxembourg des produits qu'on va réimporter avec de la valeur. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas un problème?
Il y a un problème. Nourrir tout le monde, c'est bien, mais bien nourrir tout le monde, c'est mieux, évidemment, et c'est possible.
Et c'est possible aussi si on fait quelque chose auquel je suis très attaché, c'est l'éducation à l'alimentation. C'est que un des problèmes aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de malbouffe, il y a beaucoup d'obésité, et on n'apprend pas aux enfants à bien se nourrir. Et donc nous, on pense que c'est très important de réintroduire les cours de cuisine à l'école, l'éducation à l'alimentation dans nos cantines scolaires. Et ça, nous, les marchés gros, on peut y aider à condition qu'on nous fasse un petit bout de loi qui permette aux intendants de collège et de lycée de se fournir en bon produit avec des signes de qualité.
Un bon produit avec des signes de qualité, bah, on en connaît un, dont on raffole tous. Ouais. Stéphane Layani, le chocolat.
J'en vends.
Catherine Khodorowski, le chocolat. Alors, juste question naïve, rappelez-nous, qui a inventé le chocolat ?
Inventé ? Attention, parce que...
Je dis inventé parce qu'au départ, ça n'existe pas dans la nature, le chocolat.
Le chocolat, non.
Voilà, il y a bien quelqu'un qui a eu l'idée, à partir de cette fève au goût, comme ça, pas forcément très flatteur, de transformer ça en produit miraculeux.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Nos ancêtres, les Aztèques... adoraient le cacao comme épice.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils en faisaient une boisson roborative avec des herbes, avec des épices. C'était assez, assez fort en bouche. Et quand les conquistadors espagnols ont débarqué, ils ont goûté cette boisson, ils l'ont recrachée en disant que c'était, je cite, que ça ressemblait à de l'eau de vaisselle qu'on donnait aux cochons. C'est pour vous dire un petit peu l'image qu'ils avaient de cette boisson au cacao. Parce que la définition légale du chocolat, ouais, c'est cacao plus sucre. Or, les Aztèques ne connaissaient pas le sucre.
D'accord.
Et c'est Hernán Cortés, quand il a pris le pouvoir chez les Aztèques pour en faire une colonie espagnole, ouais, qui a fait importer la canne à sucre des Antilles. Et cacao plus sucre, on a inventé, pour répondre à votre question, le chocolat.
Alors, est-ce que le chocolat est aujourd'hui un symbole de tous les dérèglements alimentaires et écologiques du monde ?
Absolument. Cacao et chocolat, ouais, effectivement. Quand on s'intéresse à tous les problèmes de mondialisation de l'alimentation, vous prenez le cacao, le chocolat, vous avez tout. C'est-à-dire les problèmes liés à l'évolution du climat. Évolution qui fait que les arbres qui produisent le cacao actuellement souffrent, produisent beaucoup moins, voire meurent avec des maladies, les insectes, les champignons, les pourritures, etc. Il va donc falloir créer des variétés hybrides. Je ne parle pas des OGM.
Ouais.
Pour vous rassurer, le cacaoyer ne peut pas être muté avec des OGM. Donc comme ça, le problème est réglé. Par contre, on va être obligé de créer des hybrides, et ce n'est pas honteux, pour que les cacaoyers puissent s'adapter au nouveau climat. Le cacaoyer, c'est un arbre très fragile. Il a besoin d'un climat chaud et humide à la fois. Or, le climat sur la planète est déréglé. Et ça veut dire qu'il y a soit des saisons trop humides, soit des saisons trop sèches, qui font que le cacaoyer, il dit stop, je ne produis plus.
Est-ce que le cacao, c'est pas comme le pétrole, en fait, c'est un produit mondialisé, mais c'est un produit qui dépend de quelques zones très instables, en fait.
Absolument. Alors, instable, c'est pas ce que je dirais. 72% du cacao est produit en Afrique de l'Ouest.
Ouais. Ghana et Côte d'Ivoire.
Ouais. Absolument. Mais, et puis quelques pays autour. Mais c'est un cacao qui est essentiellement utilisé aux États-Unis ou dans les produits industriels, les meilleurs cacao, ceux qu'utilisent les artisans en Europe occidentale par exemple, et là coup de chapeau aux artisans français qui mènent vraiment le bon goût du chocolat à travers le monde, ce cacao il vient d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, c'est-à-dire Équateur,
d'accord, ah ouais,
Colombie, Pérou. Ce sont des pays qui produisent les meilleurs cacao au monde.
Ah oui, donc vous dites les meilleurs chocolatiers du monde aujourd'hui, c'est les Français.
Alors, je vais paraître chauvine, pardon. On parle beaucoup de la Suisse, on parle beaucoup de la Belgique, mais il historiquement quand même, je suis historienne de première formation, quand on parle de chocolat, on parle de quoi ? On parle de ganache, c'est-à-dire le mélange de la crème et du chocolat, et on parle du praliné. Ces deux recettes, historiquement, elles sont françaises. Ce qui veut dire que quiconque apprend le métier dans n'importe quel pays au monde pour être confiseur chocolatier va apprendre deux recettes françaises. Je crois que je vous ai fait la démonstration.
Est-ce qu'il y a des... Quels sont les problèmes de la distribution de la valeur dans la chaîne de production du cacao et du chocolat ?
Écoutez, le problème est très simple. Regardez, je vous ai apporté une tablette. Quand je parle d'un sujet...
Ouais, je bien, être concret. Et nous aussi.
Je suis une femme de terrain. Vous voyez, une tablette.
Ouais.
Ça, un carré.
Ouais.
C'est ce que gagne un agriculteur de cacao. D'accord ?
D'accord.
J'ai tout dit. Ça veut dire que les agriculteurs, s'ils ne gagnent pas assez leur vie, les enfants n'auront pas envie de reprendre la ferme. Ils préféreront aller en ville ou travailler dans des puits de pétrole. Ils n'auront pas envie de renouveler le verger des arbres comme en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Hein ? Et ça veut dire que...
Mais est-ce que vous diriez que le cacao est menacé aujourd'hui ?
Moi, je pense que... Je ne sais pas si c'est le cacao ou les agriculteurs, mais quand on voit quand même qu'en un an, le prix du cacao a baissé de 70% en un an, et que paradoxalement, il y a un an et demi, il avait augmenté de 300 à 400%. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que les agriculteurs, ils ne gagnent toujours que ça. Ce qui veut dire que sur une tablette... La plus grosse partie, elle va à tous les intermédiaires, au coût bien sûr du transport en bateau, mais ça encore, il faut bien que le cacao arrive chez nous puisqu'il ne pousse pas chez nous, dans la transformation, dans le marketing, etc. Mais tant qu'on ne reconnaîtra pas le travail des agriculteurs, on n'en sortira pas. Et ceci dit, permettez-moi de dire, il n'y a pas que pour le cacao que le problème se pose. Hein. Nos agriculteurs français, il y a un suicide par jour quand même. Hein. Ils ne produisent pas du cacao, mais est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes ?
Alors, quelle réponse vous donnez au titre de votre livre ? Alors du coup, quel chocolat pour demain ? À quoi va ressembler notre chocolat demain ?
Il faut une prise de conscience pour dire que le cacao qui est coté dans les bourses de New York et de Londres, hein, il faut qu'il y ait un autre fonctionnement. Il faut qu'on accepte de mieux rémunérer ceux qui fournissent la matière première. Et encore une fois, c'est valable, je pense, pour d'autres produits que ça. Et c'est absolument indispensable.
Absolument.
Et il faut que nous, consommateurs, nous acceptions que le chocolat qui nous régale, qui régale toutes les générations, les enfants, au petit déjeuner, au goûter, les sportifs, les adultes, vous, quand vous n'avez pas le moral, etc., il faut qu'on accepte...
Les gastronomes
les gourmands et les gourmets, parce qu'aujourd'hui, on est gourmets de cacao, n'est-ce pas ? Il faut qu'on accepte de payer le chocolat plus cher. Il faut qu'on l'accepte. On ne pourra pas y échapper. Il faut que dans les années qui viennent, on accepte de payer... Eh ben oui, 20, 30%, voire 40% plus cher, une tablette de chocolat. Avouez que c'est un luxe abordable quand même, une bonne tablette de chocolat.
Donc c'est vraiment, Stéphane Layani aussi, enfin nous dans nos pays en tout cas développés, c'est vraiment aller vers consommer moins mais consommer mieux quoi, toujours. Même chose que pour le vin, exactement ce qu'on dit pour la viande, etc.
Absolument.
Éducation du goût, je vous rejoins, monsieur. Éducation du... Voilà. Moi, je vais dans les écoles hein, et j'anime des ateliers du goût. Les enfants en France de 8 à 12 ans, ils connaissent pas les 5 sens. Ils ne connaissent pas les 5 sens. Ils connaissent pas les 5 saveurs de base.
Et attendez. C'est pour ça, d'ailleurs, que la cité de la gastronomie qu'on va construire à Rungis, on sortira du métro, il y aura un jardin des 5 sens.
Eh bien, cher parce monsieur, on va y aller.
Parce que sans les 5 sens, la gastronomie, c'est les 5 sens.
Moi, je vais vous faire une tournée des écoles à tous les deux. Là, on va organiser des...
Si tu veux, on y va ensemble.
Ah, bah, on va faire ça, oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que l'éducation, c'est effectivement... c'est aussi le début d'une chaîne alimentaire rééquilibrée.
Il faut apprendre aux enfants ce que sont les cinq sens, les saveurs. Donc, moi, je vais dans les écoles.
Et est-ce qu'on va manquer? Moi, ce que j'ai, je ne vous cache pas. Regardez ce qui s'est passé pour le café, par exemple. La Chine s'est découvert un pays buveur de café.
Absolument.
Et, là, et du coup, les cours ont augmenté. Est-ce que des marchés s'ouvrent comme ça pour le cacao? Est-ce que les Chinois, dont c'est pas a priori vraiment la, la culture initialement, est-ce que le chocolat est en train de conquérir la Chine, par exemple?
Absolument. Les pays d'Asie se mettent à aimer le chocolat, alors que c'était des pays qui n'aimaient pas tout ce qui était sucré. En Chine, on prenait pas un dessert comme nous avec crème et sucre. Hein. L'Inde se met à aimer le chocolat. À partir du moment où ces pays vont connaître une classe moyenne, parce qu'en fait, le problème, il est là. Le problème, c'est aussi le coût du produit. Si on a trop de gens pauvres qui n'ont pas les moyens, ils ne vont pas acheter une tablette de chocolat qui, pour eux, est coûteuse, ou une barre de chocolat industrielle qui nous semble immangeable. Or, aujourd'hui, dans bien des pays à travers le monde, que ce soit en Amérique du Sud, comme au Brésil, ou en Inde et en Chine, on se met à aimer le chocolat, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des nouveaux pays producteurs plus proches, comme le Vietnam, qui
très
s'est
bon
mis, qui produit des très bons cacao, souvent grâce à des Français d'ailleurs, à des chocolatiers français, je le dis, et ça veut dire que baisse de la production et hausse de la consommation. Nous savons tous ce que c'est, l'offre et la demande. Il faut se poser les bonnes questions.
On paiera plus cher, mais on mangera toujours du bon chocolat et on mangera toujours des bons produits venant de Rungis. Merci beaucoup à tous les deux. Stéphane Nayani, Le Monde à Faim, nourrir les peuples, valoriser les producteurs, préserver la planète. C'est aux éditions du Cherche Midi. Catherine Khodorowsky, quel chocolat pour demain, pour une consommation plus responsable, c'est chez Duno. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho avec nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et grand animateur des pages libres dans Alternative Économique, le magazine. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président de la Société d'économie politique, dont il est aussi le critique littéraire attitré. Allez, bah tiens, on commence avec votre choix. Jean-Marc Daniel, le livre de Amit Bozarslam, Valpurgis, les révolutions de droite aux éditions Passé Composé. C'est quoi ces révolutions de droite, Jean-Marc Daniel?
Alors, les révolutions de droite sont les révolutions qui ont eu lieu après la Révolution française, c'est-à-dire c'est les réactions, c'est les contre-révolutions, puis ensuite le développement de, d'une logique interne propre de ces révolutions. Et l'auteur centre son propos sur la période donc 19e, 20e siècle, et essentiellement la période 1870-1945, parce que c'est la période où vont émerger les régimes fascistes en Allemagne, en Italie, mais également en Espagne et au Portugal. Et puis, il rajoute Vichy, qui est le régime. Donc, il prend comme exemple ces cinq régimes. Puis, il y a un chapitre sur sur la Turquie après l'Empire ottoman, après la chute du régime ottoman, et le Japon au moment de la montée en puissance du Japon comme allié de l'Allemagne. Alors, le livre est un livre de d'abord assez austère, c'est pas une chronologie, c'est une théorisation de ces mouvements, à la fin il y a une chronologie d'ailleurs, et avec des régimes autres, il parle de ce qui se passe en Bulgarie, il parle de ce qui se passe en Estonie dans cette période-là, et donc la thèse du livre, grosso modo, c'est de dire que concrètement au départ on commence avec des gens comme Joseph de Maistre par réagir à la fois à la révolution et non seulement au côté dramatique des événements de la révolution, mais aussi aux principes fondamentaux de cette révolution, c'est-à-dire on s'attaque aux Lumières, c'est-à-dire et puis progressivement on développe une logique propre, et en particulier ce qui montre assez bien c'est que tous ces régimes n'étaient pas uniquement pour rétablir l'ordre ancien, c'est-à-dire c'était pas dans la logique de ce qu'avait été en 1815 la restauration, c'était pour concevoir une nouvelle forme de régime qui condamnait à la fois l'héritage des Lumières et aussi la pratique antérieure qui avait conduit à la révolution. Et donc il dit il y a une sorte de logique qui consiste à condamné d'abord la République, a condamné d'abord le socialisme, a condamné la révolution bolchévique, mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on considère que l'aristocratie du XVIIIe siècle, la bourgeoisie du XIXe siècle, les tsaristes en 1920 méritaient d'être rétablis et réhabilités. Il faut concevoir quelque chose de nouveau. Et il montre bien que ce quelque chose de nouveau est quelque chose qui existe essentiellement par la violence. À un moment donné, il dit, la République avait comme devise liberté, égalité, fraternité. Tous ces régimes ont comme devise autorité, ordre, justice. Et j'ai trouvé cette formule assez claire et assez nette. Et donc, c'est un livre qu'il faut lire en se disant que c'est pas un livre d'accès facile. Bon. Il faut faire un effort, mais il faut s'accrocher parce qu'on apprend beaucoup de choses et je trouve que c'est très intelligemment mené.
Christian Chavagneux.
Ouais, je partage tout à fait l'avis de Jean-Marc. C'est un livre intéressant, sérieux, mais alors c'est dense, touffu, théorique, c'est pas d'un abord très grand public. Et l'historien fait pas de l'histoire pour l'histoire. Évidemment, s'il nous parle des contre-révolutions de droite antidémocratiques d'hier, c'est pour essayer de comprendre si nos contre-révolutions antidémocratiques de droite d'aujourd'hui, il y a de quoi les expliquer aussi. Il me dit oui, il y a des similitudes. Le fait de vouloir vivre dans une société fermée, le recours à la nation, le virilisme, la haine, pas le débat, la haine de la gauche. Bon, moi j'ai eu du mal, j'avoue, à lire le livre qui est assez théorique, donc je me suis dit, il faut que je trouve une clé de lecture. Je me suis dit, voilà, à chaque fois qu'il décrit tous ces régimes, est-ce que ça m'explique Trump ? Et là, je trouve que le bouquin éclaire Trump de manière absolument incroyable. Ah ouais. Le culte de la personnalité, le culte de l'obéissance, le culte de la puissance, comme l'a dit Jean-Marc, l'utilisation de la violence pour régler les problèmes internes, la fascination pour la guerre à l'extérieur. À chaque fois qu'on fait une petite réforme, on présente ça comme une révolution historique, on a transformé le pays, etc., etc. Donc, le livre, on peut le lire comme un reflet, un miroir D'accord. historique de nos antidémocratiques de droite d'aujourd'hui. L'auteur conclut l'histoire des révolutions de droite. C'est très simple, c'est l'histoire du champ de ruines qu'elle laisse derrière elle. J'ai trouvé cette formule assez jolie. Et il y a aussi une deuxième leçon que je tire, et l'auteur nous dit à un moment donné, ces contre-révolutions antidémocratiques de droite, elles ont d'autant plus de chances de se développer que l'État est faible et que la gauche est faible. Et donc peut-être c'est aussi une leçon historique à retenir de ce bel ouvrage.
Magnifique. Allez, on parle de votre livre maintenant, Christian Chavagneux, des lobbies au comptoir, édition Raison d'agir, avec deux auteurs, Daniel Benamouzig et le deuxième, Jean-Marc.
Joan Cortinas voilà. Munoz.
Bon, bah comme le titre du bouquin le dit, on va parler des lobbies de l'alcool, hein, bien sûr. Donc le début du livre nous fait un petit résumé de ce qu'on doit savoir. Donc la consommation d'alcool qui baisse plutôt en France, ouais. Plutôt moins de vin, un peu plus de bière, et puis consommation quotidienne qui diminue au profit de consommation un peu plus forte, mais de manière exceptionnelle. Bon, l'essentiel du livre, c'est pour essayer de traquer les tactiques, les techniques, les jeux d'influence des lobbies de l'alcool en général, plus spécifiquement souvent dans le livre des lobbies du vin, en fait. Donc l'auteur nous dit, à un moment donné, ils ont mobilisé le fait qu'en France, on buvait beaucoup de vin et qu'il y avait moins de crises cardiaques. Donc, ben voilà, le vin fait du bien au cœur. Non, maintenant, on laisse un petit peu ça de côté. Le vin, non, c'est pas, il n'y a pas un problème de santé publique, c'est un moment de convivialité. Bon, l'auteur passe en revue plein de choses comme ça, une victimisation. Si vous êtes contre le vin, il y a 75 000 personnes que vous allez mettre au chômage. Oui, mais les auteurs nous disent, il y a 43 000 personnes qui meurent chaque année à cause d'excès d'alcool. Donc, on peut pas rentrer.
Mais pas du vin.
Mais en général, ah oui. De l'alcool en général. Donc on peut pas rentrer dans ce type de comptabilité et les auteurs nous disent en fait il y a une grande méthode, un grand discours qui est utilisé et c'est vraiment la majorité aujourd'hui de la technique, des tactiques utilisées par les lobbies de l'alcool, c'est dire quand vous achetez une bouteille, vous achetez pas simplement une bouteille de liquide, vous achetez un terroir, un savoir-faire, une culture, voilà, vous achetez tout ça. Et c'est la façon qu'ont trouvé les lobbies de l'alcool pour essayer de contourner la loi Evin du début des années 90 qui encadre quand même strictement le fait que, publiquement, on puisse parler de l'alcool. Il montre bien les relais parlementaires, les relais qu'ils cherchent auprès de l'opinion publique directement. Et moi, j'ai bien aimé aussi toute la fin du livre qui répond à la question à laquelle on a envie de répondre. Ok, il y a des lobbies, mais est-ce qu'ils sont efficaces ou est-ce qu'ils sont pas efficaces? Et donc, une fois, premier exemple, le Santé publique France veut faire une campagne de Dry January. Ah, vous avez beaucoup bu pendant les fêtes, vous arrêtez de boire au mois de janvier. Sous l'influence du lobby, ça devient janvier sobre. Donc, entre dry, vous arrêtez, et sobre, faites attention, c'est pas tout à fait la même chose. Autre exemple, on voit arriver la Coupe du Monde de rugby en France en 2024, les Jeux Olympiques en 2025. Les lobbies de l'alcool disent il faut absolument qu'on relâche la loi E20 pour nous permettre de vendre de l'alcool dans les stades. Bon, et là, on passe, il y a plusieurs pages qui nous expliquent comment ils ont essayé d'obtenir ça, et finalement, ils ne l'ont pas obtenu. Donc, on voit que de temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça ne marche pas. En tout cas, si vous voulez comprendre comment les lobbies d'alcool essaient de contourner la loi E20 pour pouvoir faire la promotion des boissons alcoolisées sans mettre en avant les questions de santé publique, vous avez tout dans ce petit livre.
Jean-Marc Daniel.
On n'a pas grand-chose. Je ne sais pas si on a tout, mais on n'a pas grand-chose. Parce qu'effectivement, le premier chapitre, c'est l'état des lieux sur les données de santé publique. Donc, on affiche qu'il y a 50 000 personnes qui sont tuées par l'alcoolisme. Mais un peu plus loin dans le livre, qui est un livre qui est effectivement assez centré sur la critique du vin, et en particulier d'une association qui est Vin et Société. C'est une association qui a été créée dans les années 90. Et donc, à un moment donné, il y a un entretien avec un grand chirurgien, un médecin, et on lui dit, mais vous contestez ces chiffres. Il dit, oui, écoutez, on ne sait pas quel est l'âge moyen des gens qui meurent, est-ce que c'est vraiment de ça qu'ils meurent, et puis on ne sait pas effectivement qu'ils avaient comme maladie, et tout ça. Bon. Et le commentaire, c'est, oui, mais il est professeur à Bordeaux. Il est au professeur au CHU de Bordeaux. Façon de dire, vous savez, le mec, ouais, il est forcément jugé parti, parce que les gens qui sont à Bordeaux, alors...
Sachant que si mes souvenirs sont bons, Jean-Marc, c'est quand même dans les régions où on produit du vin que l'alcoolisme frappe le moins.
Exactement, oui. Alors après, ce que dit bien le livre, c'est qu'en fait, il y a une véritable, c'est ce qu'a dit Christian, il y a une véritable restructuration de la consommation d'alcool, ouais, avec une consommation de bière qui augmente extrêmement vite, et une consommation qui est une consommation qui a cessé d'être quotidienne pour devenir une consommation épisodique avec des phases qui sont de consommation très intense. Donc la jeunesse qui, dans des soirées, même considère comme c'est un enjeu de boire le plus possible et face à ça, effectivement, il y a une réaction du monde du vin. Alors il y a une description du musée du vin à Bordeaux est assez abondamment cité, donc je suis à la fois fier et agacé parce que Bordeaux était assez abondamment cité, et donc la description du, c'est un encart d'ailleurs qui montre bien que ce qui est construit autour du musée du vin, c'est de faire du vin un produit qui est aussi un produit culturel, qui est aussi, il y a de l'œnotourisme, il y a aussi des traditions, il y a des anecdotes, il y a des histoires autour du vin. On avait parlé ici de la créatrice du château Yquem, donc il y a des personnages qui sont des personnages qui ont été des personnages importants dans l'histoire du pays autour du vin. On parle très peu de la bière. Quant au lobby, il y a effectivement cet exemple sur le Dry January. Il n'y a pas véritablement de description de l'action systématique que peuvent faire les lobbies en question. Et donc, on sort de là avec cette idée que c'est un livre un peu tendancieux et pas totalement convaincant.
Bon, eh ben écoutez.
Et c'est pas uniquement le Bordelais qui parle, c'est...
Ouais.
Non, sachant que même pas mal d'études de l'OMS ont été remises en question pour leur partialité quand même, notamment sur le côté dès le premier verse, etc. Et voilà, effectivement. Non, moi, c'est juste... C'est toujours l'amalgame. Moi, je défends l'idée que le vin, c'est pas tout à fait pareil que les alcools, effectivement, auxquels on...
J'avais parié que vous défendriez les...
Oui, bien sûr. L'éthanol pur, c'est un poison, mais alors après, c'est quand même pas... On boit pas de l'éthanol pur, donc après... Juste pour conclure, quand même, l'exemple de la prohibition aux États-Unis montre bien que quand on va trop loin dans le sens de l'interdiction, on finit par avoir des dégâts.
Et moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est que, parce que vous avez fait tous les deux déjà les grands lobbies du sucre, les grands lobbies du tabac dans la librairie de l'Écho, moi, objectivement, vin et société, c'est quand même des guignols par rapport à tous ces grands lobbies que sont les grands lobbies du sucre. Notamment, moi, c'est ça qui m'avait frappé, et les lobbies du tabac, bien sûr. Mais après, on a vu que les lobbies du sucre avaient été encore plus retors que les lobbies du... Voilà, enfin, vous vous ferez votre avis. Les lobbies, des lobbies au comptoir, pour voir si ou non les lobbies sont influents en France, et notamment les lobbies du vin. Allez, c'est l'heure de retrouver notre étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'Écho, l'étude de la semaine.
Et on parle productivité cette semaine avec cette passionnante étude de l'Observatoire du long terme intitulée « Débloquer la productivité pour sauver le modèle français ». Avec nous, le patron de l'Observatoire du long terme, Vincent Champin. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vincent, un ouvrage qui analyse un peu la productivité sous tous ses angles. Avec, alors, on connaît l'enjeu de la productivité, c'est Paul Krugman qui dit « La productivité, ça n'est pas tout, mais à long terme, c'est quand même presque tout ». Et effectivement, comment la productivité, déjà, a-t-elle évolué globalement au fil de l'histoire? Et quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ces périodes d'augmentation? C'est quoi les facteurs qui font augmenter la productivité?
Alors, ce qu'on a regardé dans le grand décrochage, on a voulu expliquer en quoi c'est important. Et on voit aujourd'hui, on parle de pouvoir d'achat, on parle de retraite. En fait, tu peux prendre les principaux soucis de préoccupation des Français, t'en as la moitié qui se relie directement ou indirectement à la productivité. Donc c'est un sujet important. En même temps, c'est un sujet sur lequel les leviers, ils se bougent à long terme, du jour au lendemain. C'est pas par décret que tu bouges la productivité. Quand tu regardes, alors on a eu plusieurs perspectives, une perspective historique, et là on revient, en gros, la productivité de l'âge des cavernes à nos jours.
Avec toujours les grandes innovations technologiques.
Ouais, mais il y a trois principes clés, et alors ils sont très intéressants aujourd'hui parce qu'on voit qu'on les a peut-être un peu oubliés. Ce qui crée la productivité, c'est standardiser, mécaniser ou automatiser et échanger, à la fois sur les biens et sur les informations. Sur les informations, c'est toute l'informatique, puis l'IA. Sur les biens, c'est la machine mécanique, la machine à vapeur, c'est-à-dire que la machine, elle est accélérée par l'énergie. Et tu vois que ces trois principes, standardiser, si on regarde dans la période plus récente, l'Europe, dans les années 2000, on était les rois de la technologie et du GSM parce qu'on avait trouvé des standards qui étaient efficaces à l'extérieur. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a des standards qui sont un peu des boules à nos pieds. La mécanisation, on a décidé que tout ce qui était, y compris la robotique, les usines, allaient aller en Chine. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça nous manque. Et ensuite, l'échange. On voit que dans un monde où chacun se resserre un peu chez soi, on a ce troisième levier qui s'affaiblit. Donc les deux précédents, ils reprennent de l'actualité parce que le troisième ne fonctionne plus.
Alors, sauf que ça, c'est des tendances qu'on pourrait dire valables pour presque tous les grands pays. Sauf que si votre étude s'intitule « Le grand décrochage », c'est bien qu'il y a un problème français, particulièrement. La productivité en France augmente moins vite que dans les pays voisins.
Oui, et puis en fait, sur plusieurs décennies, il y a un décalage, un décrochage qui s'est créé et qui est important. Aujourd'hui, on parle de l'impact de la crise dans le Golfe sur le pouvoir d'achat. L'INSEE estime que ça sera 0,2%. Le décrochage de PIB, c'est 20 points de PIB. Donc c'est 100 fois plus important que le sujet dans lequel tout le monde part dans l'actualité. Et il y a trois grandes raisons à ça, les trois grands facteurs, en fait, le travail, le capital et l'innovation. Sur le capital, en volume, on est à peu près où il fallait, mais en structure, on investit par exemple plus dans l'immobilier et moins dans l'investissement productif. On a aussi une partie de l'investissement productif qui ne sert qu'à rattraper le fait que le travail est plus cher. Quand on investit pour avoir des caisses automatiques, on a plus d'investissement chez nous, mais ça ne nous rend pas plus efficaces que les Américains parce qu'eux, ils n'ont pas eu besoin de faire ça. Et ensuite, la partie travail. Donc dans la partie travail, taux d'emploi des jeunes et des seniors, mais aussi meilleure efficacité de la main-d'œuvre, dans le sens où les méthodes de management les plus efficaces sont moins bien diffusées chez nous. Il y a une étude notamment de Nick Bloom qui montre que ça a un impact significatif en termes de perte de PIB. Et puis, évidemment, le nombre d'heures. Et ensuite, le dernier point, c'est l'innovation. Donc l'innovation, à très court terme, ce n'est pas un levier qui va très vite. À long terme, c'est ce qui explique tout. Et dans ce domaine-là, c'est à la fois le secteur technologique et aussi le décrochage dans la recherche. 2 points de PIB en France, 3 points de PIB dans tous les pays comparables.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, Vincent Champin? Comment est-ce qu'on peut envisager réduire cet écart de productivité à un horizon raisonnable?
Il faut reprendre l'histoire à l'envers. Alors déjà, quand on regarde, même dans des domaines difficiles comme la technologie, c'est possible. On analyse dans le grand décrochage la remontada de la Chine sur l'intelligence artificielle. En 2000, ils étaient nulle part en technologie. Au moment de la bulle de l'an 2000, personne pensait à la Chine. Or, on voit qu'à ce moment, dans la recherche scientifique, ils commencent à émerger. 20 ans après, ils sont à égalité avec les Américains.
En 2000, mais il y a 10 ans, sur la voiture électrique, ils n'étaient pas très...
Non, mais la remontada sur la technologie, elle a vraiment pris 25 ans. Donc, ce qu'il faudrait, c'est être capable d'avoir un axe sur 25 ans qui commence par la recherche fondamentale. Alors, en termes de masse critique, probablement, soit au niveau européen, plutôt au niveau d'un ensemble de pays européens qui sont d'accord, ou même dans lequel il pourrait y avoir le Canada ou d'autres zones, avec des investissements dans la recherche, et avec aussi un marché mieux intégré. Hein, donc ça, c'est l'analyse Draghi qui permet d'avoir les effets de masse critique. Ensuite, dans la partie travail, c'est le taux d'emploi. On a progressé. En 2000, on a le plus bas historique du taux d'emploi des seniors en France, 10 points. Aujourd'hui, c'est passé à 40. Bon, les autres pays sont plutôt à 70 ou 80. Donc, on peut et on doit progresser.
Merci beaucoup, Vincent Jeanpin, directeur de l'Observatoire du long terme, pour cette étude donc consacrée à la productivité, le grand décrochage. Allez, on continue avec nos autres études et nos autres statistiques.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Et cette semaine, coup de projecteur sur l'étude de Westtide. C'est une start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour calculer à la source la valeur des déchets produits par les industriels. Et on s'intéresse à la voiture électrique, puisque longtemps, l'essentiel de la valeur matière d'un véhicule reposait sur quelques grammes de métaux précieux contenus dans le pot catalytique. Avec l'électrification, eh bien, tout est en train de changer. Selon l'étude, 87% de la valeur d'une voiture électrique en fin de vie provient de ses composants électroniques riches en métaux stratégiques pour la transition énergétique. Un véhicule à batterie électrique arrivant en fin de vie vaudrait 1 250 € en matériaux récupérables. C'est presque 20% de plus qu'un véhicule thermique. La base de la valeur se déplace des métaux du groupe platine volatile vers des marchés de matières premières, profonds et liquides, l'aluminium et le cuivre, qui représentent ensemble 87% de la valeur de récupération d'une voiture électrique à batterie. Le gisement est considérable, 249 millions de véhicules à l'échelle européenne circulent actuellement et seront en fin de vie d'ici 2040. Le dividende environnemental est sans équivoque, la récupération de ces matériaux sur ces 249 millions de véhicules éviterait 21 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut au retrait d'environ 4,5 millions de voitures particulières des routes européennes pendant un an, 5% des émissions industrielles totales de l'Union européenne.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
C'est celui de notre éditorialiste international, Mathieu Jolivet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Alors Mathieu, vous avez choisi cette semaine de nous parler d'Alamut, le livre de Vladimir Bartol, c'est aux éditions Phoebus. Pourquoi ce choix?
Parce qu'il y a quelques jours, Emmanuel, je regardais dans des journaux télévisés une vidéo de propagande iranienne avec des images de l'armée des gardiens de la Révolution et une voix off qui expliquait qu'ils attendaient les Américains de pied ferme, guidés par la foi, et qu'ils allaient donner une leçon à l'envahisseur. Et là, j'ai eu un flash, je me suis dit, oh, Alamut de Vladimir Bartol. Pourquoi? Parce que ce livre qui a été écrit en 1938, que j'ai lu quand j'avais 20 ans, qui a été vraiment une véritable claque, c'est déjà un flash géographique. Parce que Alamut, c'est une montagne qui est au nord de Téhéran, au sommet de laquelle vous avez une citadelle et une forteresse réputée imprenable. Et au XIe siècle, il y a un homme qui va s'y retrancher. Il a vraiment existé. Il s'appelle Hassan ibn Sabah. C'est un prédicateur chiite ismaélien d'origine perse. Il va fonder un état ismaélien nizarite. Et à partir du sommet d'Alamut, de ce véritable nid d'aigle, c'est dans la chaîne montagneuse de l'Elbourz, dont on parle en ce moment d'ailleurs en Iran, il va mener toute une stratégie de pouvoir qui est fondée sur un réseau de forteresses et surtout de disciples qui ont une logique sacrificielle et qui résonnent en réseau totalement autonome. Et en fait, il va lâcher tous ses disciples un peu partout dans cette Perse de l'époque pour faire des attentats ciblés. Et en fait, certains disent que ce sont les premiers réseaux terroristes organisés. Et vous avez Ibn Sabah qui va même, la légende raconte qu'il va leur faire manger du hashish. On va les appeler les hashishins, les mangeurs de hashish. Ce serait ça, ce mot qui est à l'origine du mot assassin. En fait, on disait que tous ces disciples d'Hassan ibn Sabah fumaient ce hashish avant d'aller tuer au nom de leur foi. Ils étaient persuadés de marcher vers le paradis. Et Baudelaire va même reprendre cet épisode des Achichins dans ces paradis artificiels. Et tout ça, ça va inspirer le roman de Bartol en 38.
Sauf que Mathieu, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas un roman sur la religion, c'est un roman sur le pouvoir.
Oui, en fait, il va dépeindre Ibn Sabah comme un stratège, comme un philosophe, mais surtout comme un illusionniste. C'est ça qui est passionnant dans ce roman. Il va recréer Ibn Sabah, dans le roman de Bartol, des jardins secrets, les jardins secrets d'Alamout, avec une réplique du paradis qui est promis aux croyants. Vous y trouvez des fontaines de miel, vous avez de nombreuses houris au voile transparent, avec beaucoup de musique, beaucoup d'extase. Et en fait, il va envoyer ses jeunes disciples totalement drogués, le temps d'un rêve, pour leur faire croire qu'ils ont entrevu juste le royaume de Dieu. Et quand ils se réveillent, ses disciples, ils n'ont qu'une idée, y retourner, même au prix de leur vie. Et voilà comment Bartol nous raconte à travers ce roman en 38, qui en fait est un roman sur la montée des populismes, comment un homme peut façonner la foi des autres pour gouverner, et comment la croyance et la manipulation de la croyance devient une arme.
Merci beaucoup Mathieu Jolivet de nous avoir parlé si brillamment et nous avoir donné autant envie de lire
Alamout.
Ou de relire Alamout de Vladimir Bartol, c'est aux éditions Phébus. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui?
Alors j'ai choisi le dernier numéro qui paraît en avril de la Revue des Deux Mondes. Assez souvent je parle de revue et la Revue des Deux Mondes c'est quand même la plus ancienne. Elle a été créée en 1829 et c'est un numéro spécial États-Unis, surtout spécial 250 ans de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc il y a à la fois une série d'articles historiques qui recrée l'ambiance de l'époque, qui raconte ce qui s'est passé, qui explique pourquoi les États-Unis, les 13 colonies en sont arrivées là. Et puis sur la couverture, il y a une photographie de Trump. Donc il y a deux ou trois articles pour expliquer où en sont les États-Unis et est-ce que l'esprit de 1776 est toujours incarné par ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Donc c'est de qualité et très facile à lire.
Christian Chavagneux, votre dernier choix.
Un petit livre synthétique sur l'impact de l'immigration sur les marchés du travail. Donc vraiment une synthèse d'abord théorique, mais surtout l'essentiel du livre, c'est toutes les mesures empiriques possibles, et il y en a beaucoup, ce qu'on apprend dans le livre, pour mesurer l'impact donc de l'immigration sur les marchés du travail. Les économistes sont pas d'accord entre eux, ça c'est pas surprenant. Certains disent oui, il y a des effets, d'autres disent non, il n'y a pas d'effets. Un chapitre spécifique sur la France, et en fait la conclusion des deux auteurs, c'est de dire, même ceux qui trouvent des effets, ceux qu'on trouve pas, dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours extrêmement faible, extrêmement petit. C'est vraiment une belle synthèse, comme les presses de Sciences Po nous en proposent régulièrement.
Merci. Et moi, j'ai choisi, écoutez, de donner un petit coup de chapeau à une revue professionnelle. C'est une revue qui s'appelle Espace, Tourisme et Loisirs. Et alors, qui sort un numéro spécial, alors ils le sortent une fois par an, un numéro spécial consacré aux chiffres clés de l'économie touristique en France. Alors, il y a des centaines d'infographies, des milliers de chiffres, des tonnes d'analyses, mais vraiment d'économistes, c'est vraiment de très haut niveau. Focus sur une vingtaine de filières, je savais même pas qu'il existait autant de statistiques en France, qu'on pouvait rassembler autant de statistiques sur l'industrie du tourisme. Donc si vous êtes un professionnel du tourisme, franchement, c'est un must-have absolu, les chiffres clés de l'économie touristique française. Voilà, c'est Espace, Tourisme et Loisirs. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.